Je ne sais pas ce que je veux faire.
Je sais pas ce que je veux faire.
Je sais pas quoi dire.
Je veux être tatoueuse.
Je sais pas ce que je veux faire.
Juste le ton.
À la découverte de métier. Facteur.
Bonjour, nous sommes sur RVM, Radio Valois-Mussien 93.7, pour l'émission « À la découverte des métiers » animée par les 3e du collège Jean de La Fontaine. Au micro, Maxime Rocher. Aujourd'hui, j'anime cette émission avec Tinley,
bonjour.
Cécilia,
bonjour.
Tamara,
bonjour.
Alice,
bonjour.
Mounir,
bonjour.
Stéphane,
bonjour.
Guillaume.
Bonjour.
Et nous accueillons Madame Suzanne Mathieu, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur métallurgiste. Est-ce que vous pouvez nous décrire votre métier en quelques mots ?
La métallurgie, en l'occurrence, c'est la sidérurgie, c'est-à-dire l'industrie de l'acier. Donc moi, j'ai fait pratiquement toute ma carrière à Montaterre, dans une usine du groupe qui s'appelle aujourd'hui ArcelorMittal, où j'ai occupé différentes fonctions. J'ai une formation de chimiste.
J'aimerais savoir combien y a-t-il de filières dans les métiers de l'ingénierie ?
Ça, c'est énorme. En fait, il faut savoir qu'il y a à peu près un peu plus de 200 écoles d'ingénieurs, donc qui forment des ingénieurs dans toutes sortes de domaines. Dans toutes ces écoles, il y a 4 ou 5 spécialités, ce qui fait qu'en gros, on a devant soi un monde de 1000 spécialités. Et c'est ce qui fait et le charme, mais aussi la complexité quand on essaye de savoir dans quel domaine on a envie de travailler.
Que faisiez-vous dans l'entreprise ?
Alors, ça dépend des moments de ma carrière. Donc, je vais commencer au début. En fait, je suis rentrée à Montaterre dans un nouveau labo pour que les développements, un peu la recherche, se fassent sur le site de Montaterre. Ce sont des produits qui s'en vont dans 2 grands domaines d'activité, d'une part l'automobile et d'autre part le bâtiment. Donc, ce sont des produits plats. On fabrique des grosses bobines qui font 20 tonnes pièces à peu près. Les 2 grands marchés ont des besoins qui évoluent. Donc on a besoin d'alléger les voitures, on a besoin de ne pas avoir de voitures qui rouillent, on a besoin de voir des beaux bâtiments décorés. Tout ça, ça nécessite effectivement des développements de nouveaux produits. Donc ce laboratoire a été créé pour s'occuper des développements et des conditions aussi de fabrication de ces produits. Je suis arrivée dans ce laboratoire parce que, en fait, un des grands problèmes de l'époque, on va dire, c'était l'anticorrosion. Alors à la fois dans le bâtiment et dans l'automobile.
L'anticorrosion, ça veut dire quoi ?
Alors ça veut dire par exemple que si tu prends une voiture qui a 25 ans aujourd'hui et que tu vas voir qu'elle est rouillée. Et à l'époque, c'était pas 25 ans, c'était 3-4 ans après qu'elle soit produite, la voiture, elle commençait à rouiller. Alors pourquoi elle rouille ? Parce que c'est de l'acier et que cet acier, il n'aime pas le sel. Donc l'idée, c'était de faire quelque chose sur la surface des tôles qu'on fabriquait pour mettre un produit qui allait protéger l'acier. Pour le bâtiment, ça fait déjà assez longtemps qu'on avait trouvé une solution, mais qui consistait en fait à appliquer du zinc à la surface de l'acier. Alors cette application sur nos lignes, c'était une application au trempé, c'est-à-dire qu'on sortait la bande bien propre, bien nettoyée, et on la faisait passer dans un bain de zinc fondu. Seulement ça, c'était des épaisseurs de zinc qui ne pouvaient pas aller vers l'automobile, parce qu'on soude beaucoup dans l'automobile, tous les assemblages sont soudés. Et quand on a du zinc en surface, comme les électrodes sont en cuivre, et bien si on met les électrodes en cuivre sur le zinc directement, on va fabriquer du laiton et on va consommer les électrodes et donc on ne va pas pouvoir souder. Lorsqu'on a beaucoup de zinc, on fait des assemblages mécaniques et non pas des assemblages soudés. Sauf que dans l'auto, on fait des assemblages soudés. Donc il a fallu se lancer pour trouver des solutions qui intéressaient l'auto. Donc diminuer beaucoup les épaisseurs de zinc. Par contre, on avait une deuxième contrainte qui nous a beaucoup, beaucoup occupés. C'est que les gens de l'automobile voulaient du zinc sur une face et pas sur l'autre. Donc évidemment, si on trempe dans le bain de zinc, ça ne marche pas.
Pourquoi ils voulaient du zinc sur une face et pas sur l'autre ?
Alors ça, c'est une bonne question. Eh bien, parce qu'en fait, sur la face où ils ne voulaient pas de zinc, c'était la face extérieure de la pièce de la voiture qu'on était en train de traiter. Et en fait, ils mettaient un système de peinture dont ils estimaient que c'était vraiment le meilleur. On ne voulait pas changer donc, le système où on mettait la peinture. Parce que si on avait mis de la peinture sur ce zinc, ça n'aurait pas adhéré. Enfin, il y avait des problèmes de combinaison entre les peintures extérieures et le zinc.
Mon premier, il ou elle, a réfléchi à nos besoins quotidiens.
Dans les écoles d'ingénieurs, quelle que soit la formation, on va apprendre d'autres spécialités. C'est une des grandes différences entre les formations universitaires et les formations d'ingénieurs. C'est-à-dire qu'à l'université, tu vas apprendre dans des spécialités scientifiques, on va dire.
Vous avez toujours voulu exercer ce métier ?
Je voulais faire une autre spécialité, parce que je ne connaissais pas la métallurgie, hein, c'est aussi bête que ça. Et en fait, cette spécialité à l'époque, donc, c'était l'agronomie. Il n'y avait qu'une école d'agronomie en France, un ingénieur, et elle était fermée aux filles. On se renseigne et finalement, on apprend qu'on peut rentrer dans cette école en dernière année avec un diplôme d'ingénieur chimiste. Donc voilà, je suis partie vers la chimie et en fait à l'école j'ai découvert la métallurgie et ça m'a passionnée plus encore que l'agro.
L'anglais est-il indispensable pour ce métier ?
Alors non seulement il est indispensable mais il est obligatoire puisque dans les écoles d'ingénieurs on passe un examen d'anglais qui s'appelle le TOEIC et si on n'a pas le niveau demandé à ce TOEIC pendant ses études, on peut le passer plusieurs fois quand on est en école. On n'a pas son diplôme d'ingénieur. Enfin, je vais poser une question, je vais faire l'inverse. Est-ce que vous savez pourquoi l'anglais est la langue des ingénieurs, des scientifiques, des techniciens ?
Je crois que c'est une langue qui est beaucoup utilisée en ce moment dans le monde.
Alors, c'est vrai ça, mais ça n'est pas la raison. Alors, je vais la poser autrement, ça va peut-être vous donner des idées. À votre avis, l'industrie, elle a démarré où ?
Je sais que les trains ont commencé en Angleterre. Et...
Tu as la bonne raison, c'est-à-dire que l'industrie est née en Angleterre. Les premiers trains, les premières usines sont nées en Angleterre. Les Anglais, ils ne parlent qu'anglais. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, les autres pays ont commencé à se dire ce serait quand même bien d'aller les voir, de pouvoir discuter avec eux. Ils avaient déposé des brevets, enfin, etc. Et, tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que tous ces gens-là ont publié, ne serait-ce que pour faire venir des gens qui venaient acheter leurs brevets. Et au fil de l'eau, si on voulait parler avec eux, bah, il fallait écrire et parler anglais. Et c'est devenu finalement la langue des techniciens. Pour quand même compléter la réponse, bien entendu, les Anglais, ils avaient des colonies. Une partie ont émigré aux États-Unis. Donc c'est devenu la langue internationale. Mais pour nous, les scientifiques, c'est la langue. La seule langue commune à tout le monde, c'est l'anglais. Et donc les rapports, même en France, sont faits en anglais.
D'accord.
Donc c'est vraiment important. Donc faites de l'anglais, faites de l'anglais, faites de l'anglais.
Mon second, il ou elle les réalise.
J'aimerais savoir quelles études avez-vous fait ?
Quand on voulait faire des études d'ingénieur, il n'y avait qu'une filière. Et cette filière, c'était à la fin d'un bac scientifique qui s'appelait S aujourd'hui. Eh bien, on passait 2 années dans des lycées, d'ailleurs, dans des classes qu'on appelle préparatoires. Il y a écrit CP, GIE, classe préparatoire aux grandes écoles. Et on passait des concours qui correspondaient aux écoles qui vous intéressent. Et à l'époque, il y avait une centaine d'écoles. Ces écoles ont été créées à l'époque de Napoléon. Aujourd'hui, on est à plus de 200, donc on a doublé. Pourquoi ? Bah parce que dans les années 60-70, il y a beaucoup de nouvelles sciences qui sont apparues, l'électronique, l'informatique, la bio. Et donc, on a créé de nouvelles écoles pour pouvoir renseigner toutes ces spécialités. Et on continue régulièrement à créer de nouvelles écoles, par exemple l'environnement, les nanotechnologies. À chaque fois, donc, on crée de nouvelles écoles pour répondre aux besoins de l'industrie, on va dire.
Vous sentez-vous valorisé par votre métier ?
Oui, certainement. Et je vais même te dire plus, moi je suis d'un milieu très modeste. Mon père était ouvrier, en plus d'origine étrangère. Le fait que dans nos écoles d'ingé, il y a à peu près 30% de boursiers. Et il est clair que j'ai été très honoré de pouvoir accéder à ces formations-là que j'aurais pas pu faire autrement, hein, c'est clair.
Quel matériel utilisez-vous et est-ce qu'il est dangereux ?
Dans mon travail, tu veux dire ?
Oui.
Bon, j'utilisais pas beaucoup de matériel, je faisais utiliser beaucoup de matériel. Pourquoi ? Bah parce qu'en fait, dans une équipe d'ingénieurs, si on compare ça en gros à un corps humain, la tête c'est l'ingénieur parce qu'il va avoir différentes activités à faire ou à faire faire pour qu'un projet avance. Et puis ses bras, c'est les techniciens supérieurs, c'est-à-dire les bacs plus 2 ou 3. BTS, DUT ou maintenant licence pro. Et puis, les techniciens qui vont faire, c'est mes petits doigts, on va dire. Il faut qu'il y ait effectivement plus de techniciens que de techniciens supérieurs, que d'ingénieurs. C'est vraiment une pyramide, en fait, ce travail. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire quelque chose d'important, c'est que le travail de l'ingénieur, il a beaucoup évolué. Si on parlait du début du XXe siècle à aujourd'hui, c'est que à cette époque-là, au début, en fait, les ingénieurs, c'était les chefs. C'est-à-dire que quel que soit le truc, même si ça ne vous plaisait pas beaucoup, c'était le chef qui avait dit. Aujourd'hui, le management, ça ne se fait pas du tout comme ça. Maintenant, en fait, l'ingénieur, c'est un chef d'orchestre. C'est quelqu'un qui va sans arrêt coordonner l'équipe sur un sujet. Dans cet orchestre-là, personne ne peut aller ailleurs. Donc, il faut être très convaincant et aimer ça. Il faut aimer animer les gens, comme vous faites là aujourd'hui. Alors, la filière qui est la meilleure, c'est en fonction de toi.
Il y avait l'université, il y avait les classes préparatoires et DUT, BTS.
Il y en a encore une autre, c'est l'école à prépa intégrée. Si t'es bon élève, si la théorie, ça te fait pas peur, c'est-à-dire que t'apprends de nouvelles choses, même si tu sais pas à quoi ça va servir, si tu les apprends, c'est que évidemment ça pourra servir un jour. Et si tu crains pas de travailler, les classes préparatoires, c'est celles qui ouvrent le plus. C'est-à-dire qu'à la sortie de tes 2 années, tu peux candidater dans n'importe quelle école. T'es sûr de trouver une école, pas forcément celle que tu voulais, mais au moins de trouver une école, parce que les écoles aujourd'hui ne remplissent pas leur promotion. Les jeunes garçons et filles ne sont pas assez nombreux aux portes des écoles d'ingénieurs, alors que ce n'était pas le cas quand moi j'y étais. Hein. C'était un peu l'inverse par rapport à médecine, hein, par exemple. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que si toi, tu aimes comprendre, mais tu aimes bien aussi voir à quoi ça sert, c'est un peu plus difficile. Il y a de la pression beaucoup, ce n'est pas tellement que c'est difficile. Ce qu'on fait en prépa, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations à apprendre. Et plus il y a de science, plus il y a d'informations. Ça va être un nouveau socle de connaissances. Quand vous êtes rentré à l'école primaire, vous avez appris votre socle de connaissances que vous utilisez encore aujourd'hui et que vous utiliserez jusqu'au bac, c'est-à-dire savoir lire, écrire et compter. Tout le reste va s'enrichir là-dessus. Et là, vous avez besoin d'un nouveau socle de connaissances. En fait, ils se sont posé la question de se disant finalement... Pourquoi on n'essaierait pas de mieux raccorder finalement la théorie avec la pratique de notre école, de nos formations? Et donc ils ont étalé, même si les 2 premières années s'appellent préparatoire, ils ont étalé les connaissances plus sur la période des études, disons les 4 premières années, parce que la 5e c'est beaucoup des stages. Ça a rendu les choses plus faciles, ça a permis de montrer à quoi ça servait. On y fait déjà des stages dès la première année, ce qui n'est pas le cas quand on vient par les classes préparatoires. Donc c'est une autre façon de travailler, c'est une façon plus, on va dire, plus cool aussi. Hein. Et puis, il n'y a plus de concours, ce n'est que du contrôle continu. Donc c'est assez confortable, ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas autant, hein. C'est simplement une autre façon de travailler. Et je crois que ça, c'est vraiment important.
Quel est le pourcentage de filles dans ce métier ?
En France, sur les 800 000 ingénieurs, il y a 130 000 femmes. Alors évidemment, on est loin de la parité, mais il y a 2 raisons, on va dire. Une raison historique et puis une stéréotype. La raison historique, il faut savoir que la première école qui s'est ouverte aux filles, c'est 1908. Et la dernière qui s'est ouverte aux filles, c'est 1993. Autrement dit, il a fallu 100 ans pour que l'ensemble des écoles soient ouvertes aux filles. Donc ça, c'est la première raison. Donc on a vu effectivement augmenter le nombre de filles. Jusque vers les années 2000, on arrivait à peu près à 20% de filles. Et puis depuis, on rame. Alors c'est là que je dis qu'il y a une autre raison, puisque aujourd'hui, on tourne autour de 27%. Mais c'est extrêmement mal distribué dans l'ensemble des métiers, puisqu'on considère que si on a 27% quand on fait la moyenne de toutes les écoles, si on enlève 3 spécialités, l'agro, la biologie et la chimie, on est à moins de 18%. En fait, les filles s'interdisent. Les filles, vous avez de bons résultats, vous avez de meilleurs résultats que les garçons au bac. Osez. Pourquoi ne pas aller vers nos voies scientifiques et techniques? C'est des métiers où il n'y a pas de chômage. On a de bons salaires. Vraiment aucune raison pour que les filles n'y aillent pas. En plus, il faut savoir que depuis quelques années, les entreprises cherchent des femmes ingénieures. Alors ça, c'est assez nouveau, on va dire. Et les entreprises, ce qu'elles cherchent, c'est pas un genre, c'est pas un truc, c'est des gens qui vont faire gagner des sous à l'entreprise. Les entreprises qui avaient plus de 35% de femmes à des postes de responsabilité, pas forcément que des ingénieurs, hein, ça peut être des commerciales, des marketing, des financières, etc. et tout, n'avaient pas souffert de la crise. Et que toutes celles qui avaient moins de 25% en avaient bavé. Donc les entreprises viennent vers nous, donc vers notre association en particulier. On arrive à convaincre les jeunes filles que c'est des métiers qu'elles peuvent faire et dans lesquels on s'éclate vraiment.
Ce métier a-t-il beaucoup évolué depuis que vous l'exercez ?
La science, elle évolue tellement vite, les technologies évoluent tellement vite qu'on passe son temps à changer, à compléter nos formations. La routine, c'est pas vraiment notre genre de métier. Donc ça bouge sans arrêt. La principale qualité des ingénieurs, c'est la curiosité.
J'aimerais savoir le rôle qu'a l'informatique dans le métier.
C'est un outil, comme les maths, comme le français, comme l'anglais. C'est des outils qu'on utilise, en fait, c'est tout. Il faut bien se positionner par rapport à ça. On ne va pas inventer de nouveaux logiciels. On va aller voir les informaticiens en leur disant, moi, j'y passe un temps fou à exploiter, alors que si on avait un petit logiciel qui nous permettait d'aller plus vite, ce serait intéressant.
Quel est le salaire moyen d'une personne qui travaille dans cette filière ?
Alors, je vais vous donner 3 niveaux. Le niveau de débutant, le niveau mi-carrière, 40-45 ans, et le niveau fin de carrière. Alors, le premier, c'est 36 600 euros. Donc, si on divise par 12, on a en gros 3 000 euros par mois, brut. Donc ça fait entre 2006 et 2007. Vers 40-45 ans, c'est 76 500. Ça fait un peu plus du double. Le troisième, c'est fin de carrière. Et on est à 110 300.
Vous travaillez pour des grandes entreprises ?
J'ai travaillé pour une grande entreprise parce que le groupe s'appelait Usinor à l'époque, s'appelait ArcelorMittal, c'est une grande entreprise. On peut travailler dans des TPE, des PME. En fait, le problème des TPE, des PME, c'est-à-dire des petites entreprises, c'est qu'embaucher un ingénieur, d'abord c'est un vrai investissement, et souvent, ils n'arrivent pas à analyser suffisamment ce que l'ingénieur va pouvoir leur apporter. Et ça, c'est vraiment compliqué. Donc, les PME, un peu, mais les TPE... c'est quand même plus difficile. Souvent, quand il y a des ingénieurs dans les TPE ou dans les PME, soit c'est eux qui ont créé la boîte. Donc ça, c'est une première raison. Et la deuxième, quand c'est une affaire familiale.
J'aimerais savoir, qu'est-ce que vous aimez dans votre métier ?
Enfin, je pense que ce qui est intéressant dans le métier, c'est toujours d'avancer vers quelque chose, quoi. D'avoir un objectif. Alors l'objectif, il peut vous être arrivé par votre patron, par une question venant d'un client, vos collègues en usine quand ils ont des problèmes. Essayer d'améliorer. Soit le mode de vie, soit la qualité des produits. Il y a tellement moyen de faire mieux qu'avant. Résister mieux aux problèmes d'environnement, recycler des produits qu'on ne recyclait pas. Enfin, tout peut être bon, je dirais, là-dedans.
D'accord. Donc, j'aimerais savoir, quels conseils donneriez-vous à nos recherches pour choisir notre métier ?
Première chose, être curieux. Si vous avez envie de devenir ingénieur, c'est-à-dire que vous voulez avoir un niveau de responsabilité. Quand on est dans cette optique-là, après ça, il faut se dire, qu'est-ce qu'il va faire là ? Que demain matin, si je commence à travailler, je me lève en étant content d'aller travailler, quelle que soit l'heure, si je dois faire un voyage ou n'importe quoi. C'est finalement le domaine dans lequel on travaille, c'est pas la spécialité. Enfin, ça peut être la spécialité, par exemple, si vous êtes informaticien, vous pouvez travailler aussi dans le domaine de l'informatique. Donc moi, j'ai des documents dans lesquels, en fait, on vous a mis des domaines, par exemple l'aéronautique, l'automobile, je sais pas, la banque, enfin, toutes sortes de domaines. En fait, c'est ça qui doit vous faire déjà réfléchir. Et ensuite, donc, dans la feuille que je vous laisserai, là, il y a des sites internet qui correspondent, pas à tous les domaines, parce qu'il y en a quelques-uns qu'on n'a pas fait, dans lesquels ils expliquent tous les métiers qu'il y a dans leur domaine. Et si vous avez un peu de courage, un peu de temps, parce que, bon, aller à Paris, c'est pas très loin, mais quand même, allez à Paris, à la Cité des Sciences, donc à la Porte de la Villette, il y a une grande cité des métiers. Vous avez plein de témoignages. Nous, on en a aussi quelques-uns quand on vient dans les classes, mais c'est jamais suffisant. Donc l'idée, c'est de montrer. Vous ne voyez pas ce qu'on fait, jamais. Vous ne voyez que le résultat ce qu'on fait. Donc, profitez aussi, par exemple, bientôt, là, ça va être la semaine de l'industrie, il y a plein d'entreprises qui sont ouvertes. Si vous n'avez pas la liste, suffit d'aller sur le site du conseil régional et vous allez avoir toutes les entreprises qui ouvrent pendant cette semaine-là, et entre autres le week-end. Allez voir ce qu'on fait. Regardez, soyez curieux. Et si vous voulez aller visiter des usines qui font quelque chose dans le métier qui, comme ça, qui vous plaît, demandez au conseil régional s'il y a des entreprises dans ce domaine, dans la région, ils vont te donner les informations. Et à ce moment-là, tu contactes ces entreprises. Les gens sont très fiers de ce qu'ils font. Ils sont très heureux que les jeunes viennent leur demander comment ça se passe. Donc c'est rare qu'on essuie un refus.
Et Montou est dans À la recherche des métiers sur RVM 93.7.
Pour moi, le métier d'ingénieur, c'est vraiment la découverte, la performance.
C'est la curiosité.
Pour moi, le métier d'ingénieur, c'est la découverte, la nouveauté, l'innovation.
Pour moi, le métier d'ingénieur, c'est la langue.
Pour moi, le métier d'ingénieur, c'est l'esprit d'équipe.
Pour moi, le métier d'ingénieur, c'est l'invention.
Pour moi, le métier d'ingénieur, c'est la curiosité.
Pour moi, le métier d'ingénieur, c'est le travail.
Et moi, je pense que le métier d'ingénieur, c'est la variété et le côté humain de cette variété aussi.
Le temps de cette émission est écoulé. Nous remercions Madame Suzanne Mathieu de nous avoir consacré cette émission et je remercie aussi mes collègues.
Cette émission est le fruit d'un partenariat entre Agir ABCD, le collège Jean de La Fontaine de Crépy-en-Valois et RVM.
Vous pouvez écouter toutes les interviews de l'audiothèque des compteurs de métiers
sur notre antenne 93.7
ou en podcast sur le site www.radio-valois-mulcien.fr.